Alors, on va passer à une deuxième table ronde, première table ronde. Hein, un deuxième débat. On va parler des premiers romans, comment ça se passe, pourquoi, comment, avec un plateau de trois personnes. Nous avons Cécile Duquesne, dont le premier roman était Entre chats aux éditions Voyelles. Nous avons Louise Rouillet, dont le premier roman c'est Les Tribulations amoureuses de Poséidon, aux éditions des Netscripteurs. Et puis Raphaël Albert, qui a fait Rue Farfadet, son premier roman chez Nemos. Alors peut-être simplement pour commencer, et la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné à tous les trois envie d'écrire, et qu'est-ce qui vous a amené au premier roman ?
Moi c'est un peu particulier, dans le sens où en fait, certaines personnes c'est une intuition depuis leur enfance qui leur a donné envie d'écrire, d'autres c'est je veux être écrivain plus tard. Moi c'était Harry Potter. C'est-à-dire qu'en 5e, j'ai découvert Harry Potter et par frustration, j'ai eu envie d'écrire la suite, puisqu'à l'époque, il n'y avait que 4 tomes de publiés. Et donc, j'ai écrit ma version d'Harry Potter, bien sûr, pas à la hauteur de l'original. j'avais 13 ans et je ne savais pas encore que j'étais entrée. J'avais mis les deux pieds dans l'écriture déjà. Et c'est après, en fait, par encore frustration d'être allée au bout de ce que j'avais écrit et j'avais chopé le virus de l'écriture. Je me suis mise à l'original, en fait. Voilà.
Quand vous parlez de virus de l'écriture, ça veut dire que, à partir du moment où on a bouclé sa première histoire, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer encore et encore ?
Ça dépend sûrement des personnes, il y en a qui diront peut-être le contraire. Moi, j'avais découvert quelque chose. Avant, je m'écrivais par dessin, j'avais pris des cours, etc. Et j'ai découvert que dans l'écriture, j'arrivais à m'exprimer mieux, parce que pour moi, les mots avaient plus de précision, et aussi, j'avais découvert que j'arrivais mieux à évoluer dans l'écriture que dans l'illustration, et donc j'ai fini par faire mon chemin sur la voie de l'écriture.
On va poser la même question à Louise Rouillet avant Poséidon, les tribulations amoureuses. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on écrit et on enchaîne les histoires ?
Bon, déjà, petite précision, mon nom c'est Louise Rouillet, je suis désolée, tout le monde se trompe. Pour moi, ce qui m'a donné l'envie d'écrire, c'est particulièrement banal, c'est juste que j'écrivais depuis l'enfance, en fait, plus ou moins à partir du moment où je me suis mise à lire, j'ai commencé à avoir envie d'écrire des histoires. Ce qui est terrible, c'est que moi je lis énormément, donc j'écris aussi, j'avais énormément envie d'écrire. Le problème pour moi était surtout de finir les histoires que je commençais. Donc j'ai réussi enfin à en finir une. J'ai réussi à la fourguer à l'éditrice qui a bien voulu avoir la clémence de la publier. Hein. Merci. Sinon, mon avis, la question pour laquelle on continue à écrire, à enchaîner les histoires, pour ma part, c'est pour deux raisons. À cause de la lecture, mon imagination est stimulée tout le temps. Et donc, je pense que je dois avoir 4 ou 5 idées par jour de trucs à faire. Et il faut. Il y a du mauvais, il y a beaucoup de mauvais, évidemment. Hein. Il faut que j'en sorte quelques-unes. Voilà. Il faut que j'en sorte quelques-unes parce qu'après, ça me trotte dans la tête. J'aurais dû faire ça. Voilà. L'autre chose, c'est toujours à cause de la lecture, c'est que quand je lis un livre que j'aime beaucoup, une fois que j'ai terminé, j'ai envie d'écrire quelque chose dans cette veine-là, dans cet esprit-là, pas forcément en plagiant ou en copiant, mais en tout cas de sortir de moi une espèce d'énergie qui vient de la lecture de grandes œuvres, plus ou moins grandes œuvres. Voilà.
D'accord, ça se traduit comme ça.
La même question à Raphaël. Comment est-ce que tu as commencé à écrire et qu'est-ce qui fait que tu continues encore et encore ?
Moi, c'est Dieu. Il est apparu un beau jour, j'avais environ 20 ans, et il m'a dit « Raphaël, j'ai besoin de toi !» Je ne vois vraiment pas si vous faites rire. Alors, il m'a dit « J'ai besoin de toi, parce que le monde court à sa perte, et toi seul peux le sauver. » Donc en fait, j'écris un petit peu pour sauver l'humanité, et je suis en mission pour le Seigneur.
D'accord.
Voilà. Alors plus prosaïquement... Plus prosaïquement, j'en sais rien en fait. Sincèrement, je ne sais pas. Je crois que j'ai lu tellement d'histoires que j'ai envie de raconter les miennes. De façon totalement immodeste, mais voilà. Moi, ce qui me fait écrire d'autres choses, c'est que j'adore ça. D'accord. Je suis complètement accro, en fait. Voilà, quand j'écris pas pendant deux mois, je deviens agressif, je deviens vert et je brise mes vêtements. À part mon pantalon, bien sûr, parce que la décence me l'interdit.
Une petite question, donc on parle de virus de l'écriture, mais est-ce qu'avant d'être publié, c'était l'objectif? Est-ce que dès le départ, vous aviez envie de faire des livres, ou est-ce que vous vouliez d'abord écrire?
La première fois que j'ai donc mon premier roman Entre chats, j'ai envoyé aux éditeurs, mais pas pour être publié, c'était pour avoir des lettres de refus en fait. Je savais que j'avais pas le niveau pour être publié. Non, sincèrement, c'est vrai, c'était...
Mais fallait me demander, moi je t'en ai refusé.
J'en étais consciente, je veux dire, j'avais 17 ans, je savais que même si j'avais envie d'écrire et peut-être en faire un jour plus tard une activité régulière ou mon métier, bon, ça, après bon, c'est difficile d'en vivre. Mais bon, bref, j'ai envoyé en fait pour avoir des retours, parce qu'à l'époque personne autour de moi ne voulait me lire, n'avait le temps de lire un pavé de 300 pages pour me faire un retour particulier. Donc pour moi, envoyer aux éditeurs, c'était un moyen d'avoir un avis objectif. Et effectivement, entre les dizaines de, enfin, au milieu des dizaines de lettres de refus, j'ai eu des retours très précis, dont des éditions de Nemos, des éditeurs qui m'ont dit « là ça va pas ». Du coup, j'ai réécrit mon roman, et quand j'ai renvoyé, effectivement, je voulais être publiée. Je m'étais dit « ça y est, je suis dans le processus ». Ça a déclenché quelque chose, en fait. Une envie d'être publiée, en plus de l'envie d'écrire, quoi, que j'ai exprimé.
Ça voulait dire que la finalité, quand même, dès le départ, c'était l'objet livre.
Pas consciemment, alors. Puisque quand j'ai envoyé vraiment la première fois, c'était vraiment pour avoir un avis objectif. Je ne m'étais pas dit je vais être publié ou je le serai un jour. C'était vraiment dans... Après, peut-être inconsciemment, oui, il y avait une envie d'être publié, mais c'était pas vraiment... C'était pas un but avoué, voilà, en fait.
Alors, est-ce que chez vous, c'était un but avoué ou pas, Louise?
Moi, ben, totalement. Parce que ma modestie ne m'étouffe pas. Voilà. Et donc totalement, mais pas vraiment pour ce texte là en fait, c'est ça qui est marrant. C'est que j'avais 50 projets en cours, ils sont toujours en cours d'ailleurs, et j'avais envoyé cette nouvelle là, enfin en fait c'est un recueil de nouvelles, hein, donc un recueil de nouvelles avec deux nouvelles, c'est un nouveau concept. Donc, j'avais envoyé donc l'une des deux nouvelles à une éditrice en lui disant, dis-moi si c'est publiable. Dis-moi si c'est quelque chose qui peut être publiable parce que je pourrais éventuellement penser à l'envoyer à d'autres personnes. Voilà. Bon, elle a réussi à le garder pour elle. Bravo. Et en fait, dans un projet qui s'est construit à deux, entre l'éditrice et moi, donc, j'avais envoyé une nouvelle, elle m'en a fait écrire une deuxième. J'avais envoyé, c'est un livre en deux parties, comique et tragique, donc j'avais envoyé la partie tragique, hein, parce que je voulais être sérieuse. Donc elle a compris qu'elle était ma vraie nature et elle m'a fait écrire la partie comique. Donc ça s'est vraiment construit à deux, et donc moi je voulais être publiée, mais pas forcément, je pensais pas forcément à ce livre-là. Et finalement, ça correspond tout à fait à ce que je voulais. Enfin, le résultat final correspond tout à fait à ce que je voulais faire, d'une certaine manière, avec mon écriture.
Et toi, Raphaël, pareil, objectif édité?
Oui. Ouais, oui, en fait, bon, moi j'écris d'abord pour mon plaisir personnel, on va dire, mais. En arrière-plan, il y avait le doux rêve d'être édité un jour et d'avoir un bel objet livre, comme tu dis.
Comment est-ce que vous avez travaillé, puisque on est avant le premier roman publié, donc vous n'êtes pas forcément en contact avec des éditeurs. Comment est-ce que vous avez bossé votre style, simplement peut-être votre régularité? Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez participé à des ateliers d'écriture ou des choses comme ça?
Ça va encore être une réponse bizarre. Ouais. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le NaNoWriMo. Alors, désolé pour l'accent anglais, peut-être bon mauvais, je ne sais pas. National Novel Writing Month. Mois national de l'écriture, et qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois, le mois de novembre en l'occurrence. C'est un concept américain qui fait des vagues en France en ce moment, depuis quelques années. Et j'ai découvert ça en fait, genre 3 jours à l'avance, donc le 27 octobre ou le 26, une amie me dit « Eh bien, on va écrire un roman chacune de notre côté, etc. C'est super !» Moi, j'avais pas de projet de roman, je savais pas quoi faire. Et en fait, c'est à travers ça que j'ai commencé à à entrer dans le processus d'écriture régulière. C'était un mois, je suis sortie, c'était l'essoreuse, quoi. Vraiment, j'étais sur les genoux à la fin du mois. Mais ça m'a appris que je pouvais écrire régulièrement, tous les jours. Pas forcément bien, parce que quand on écrit 1600 mots par jour, il y a des corrections à faire derrière. Mais c'était quelque chose vraiment qui m'a appris à ce que ça pouvait être d'avoir l'écriture dans sa vie tous les jours. Voilà, ça répond en partie à la question.
Pareil pour vous deux, il y a des ateliers d'écriture ou...
Non, pas d'atelier d'écriture. Moi, j'ai fait beaucoup de concours de nouvelles. Et c'était très formateur parce que, comme il y a des contraintes bien précises et qu'on n'a pas le droit de se planter, en fait, parce que sinon la nouvelle, elle est tout de suite ratée. C'est un peu redondant ce que je dis, mais voilà. Je veux dire, si on rate un chapitre dans un roman, j'ai l'impression que c'est moins grave parce que le reste peut être rattrapé. La nouvelle, si vous la ratez, elle est morte. Donc c'était plutôt formateur, j'ai trouvé. Puis sinon, j'ai écrit. Quand j'ai eu le temps, laborieusement, ça a été long, difficile. C'était, et puis ben, au final, on finit par trouver un style, enfin, j'espère. Je ne sais pas.
Pour moi, donc, moi, je suis passée par Internet. J'ai écrit beaucoup en publiant sur des blogs, énormément. J'avais des projets de romans, certains terminés, d'autres non. Et que j'ai publié sur des blogs où j'avais des lecteurs tout ça, qui critiquaient, qui disaient « Oh, il est faux, tu vois. Tiens, mais c'est complètement incohérent. Voilà, je déteste. » donc ça, c'est très formateur. J'ai aussi fait pas mal, publié pas mal sur des forums littéraires, donc avec des plateformes d'échange de blogs, le forum Histoire de Romans, par exemple. Je sais qu'il en existe d'autres. Et trouver des bêta-lecteurs, de toute façon. J'ai été bêta-lectrice, j'ai bêta-lu, voilà.
Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la bêta lecture que j'ai un peu omis tout à l'heure, il y a aussi le forum de Cocyclix qui a beaucoup fait pour moi personnellement, qui est un forum qui existe depuis 2006 en fait, qui a été créé par Siwen, qui est une auteure qui est éditée aux éditions de Riez aussi, qui a son deuxième roman là, qui sort justement bientôt. Et en fait, sincèrement, j'y connaissais rien au début. Pareil, j'avais toujours 17 ans, toujours semi-expérimenté en écriture et correction. Et c'est par Internet, donc, et par le NaNoWriMo et par Cocyclix simultanément, que je me suis formée et à l'écriture, à la correction, etc., et tout ce processus.
C'est facile au début d'accepter de revoir un texte, de corriger, de retravailler un texte, de revenir dessus.
Non, c'est absolument horrible. mais au bout d'un moment, il faut être lucide quand on commence à être publié. Je pense qu'on passe une espèce de cap où on se dit que son ego d'auteur vaut moins que le fait d'avoir un bon texte. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut. C'est ça l'avantage de la bêta lecture d'ailleurs, c'est qu'on voit pas mal comment l'avis de quelqu'un d'autre nous fait améliorer le texte.
Au début, on prend un sacré coup quand même, c'est un peu comme un coup de marteau sur la tête par Thor lui-même. ah non, mais littéralement, c'est ça. Surtout quand c'est notre premier roman, enfin, je sais pas vous, mais la première bêta lecture a été très difficile et très formatrice. Passer les 3-4 semaines de déprime à se dire qu'est-ce que je vais faire de ce roman, au bout d'un moment, on fait le deuil de la version 1 et on se dit je vais travailler sur la version 2. Très progressif, mais il faut bien passer par là. Et je pense que c'est commun à beaucoup d'auteurs aussi.
Je sais pas. Moi, j'ai dû retravailler sans cesse. Comme je n'ai aucun génie propre, je suis obligé d'être un laborieux tâcheron. Donc je travaille, je gomme, je réécris, et je gomme, je réécris. Et je fais ça un petit milliard de fois, et au bout du compte, ça finit par faire quelque chose qui me satisfait à peu près.
Alors, vous avez votre premier manuscrit, vous avez rencontré, vous l'avez envoyé aux éditeurs. Comment s'est fait le premier contact avec les éditeurs ?
Par voie classique, en fait. En voie papier. Après, ils m'ont contacté sur leur téléphone ou par mail. Mon premier contact, c'est un peu alien, dit comme ça, avec les éditeurs, c'était avec les éditions de Librius Céleste, qui sont décédés depuis et qui en plus ont mis la clé sous la porte juste un mois avant la publication d'entrechat chez eux. Et donc après, j'ai dû rechercher les éditeurs en leur disant voilà, j'ai un manuscrit qui a été corrigé, mais bon, c'est pas vous qui l'avez corrigé, mais il est tout prêt, si vous en voulez, prenez-le. Et au final, ça a été beaucoup plus facile à partir de là. Avant, j'ai fait une collection de lettres de refus assez impressionnante. Et après, ça, c'est passé ce premier contact. Je pense qu'on acquiert un petit côté professionnel, on va dire, qui grandit au fur et à mesure et qui m'a permis aussi d'avoir un peu plus d'assurance sans non plus le prendre pour Dieu. Mais ça a été beaucoup plus facile.
Alors, le premier contact.
Moi, avant de contacter mon éditrice, j'avais envoyé un roman très mauvais à Gallimard, parce qu'évidemment, je ne prenais pas pour n'importe qui. Et j'ai reçu évidemment une lettre de refus. En plus, ce qui était un peu frappant, c'est qu'ils se sont trompés dans le titre de mon manuscrit quand ils m'ont envoyé la lettre de refus. Voilà. Donc ça, c'était fait. Donc le premier contact avec un éditeur, c'était une feuille de mailing avec un faux nom sur mon courrier. Le premier contact avec mon éditrice, Isabelle Marin, des Nascripteurs, c'est vraiment on s'est rencontrés sur Internet parce qu'elle tenait un blog, pour les livres qu'elle publie. Donc j'ai rencontré sur ce blog, on avait passé le lien. Et après, on a discuté pas mal, on avait fait connaissance par Internet. C'est pour ça que spontanément, je voulais lui demander à elle un avis sur mon texte. Je pensais pas qu'elle ait plus de rêve, mais bon. Mais voilà. Et donc, c'est intéressant comme premier contact parce qu'on est vraiment dans une relation amicale, elle et moi.
Premier contact, ça a été une lettre de refus aussi avec les éditeurs. Hein. Je pense que globalement, premier contact avec un éditeur, c'était pour m'entendre dire non, merci, ça va bien se passer, mais sans toi. Et puis après, il y a eu cette lettre. En fait, j'avais proposé mon manuscrit une première fois à Mnemos vers 2005 et il m'avait renvoyé mon manuscrit avec une gentille petite lettre de refus, mais qui vantait les mérites de ce que j'avais écrit. C'était plein de compliments, très agréable. Mais globalement, non, on n'en veut pas quand même. Et puis 5 ans après, j'aurais reproposé en me disant que peut-être maintenant ils en voudraient, vu que la ligne éditoriale avait changé, que peut-être le public avait changé. Et là, j'aurais fait une petite lettre, cher Mnemos. Je t'ai proposé mon manuscrit il y a quelques années, mais je terminais par gros bisous, je sais pas. J'ai eu la surprise d'avoir un mail assez vite. 2 semaines plus tard, j'avais un petit mail me disant « Bah oui, ça serait sympa de revoir un petit peu ton manuscrit, donc tu peux me le renvoyer. » Ils avaient écrit pareil « Cher Raphaël. » Et puis je l'aurais renvoyé donc par Internet. Et puis 3 semaines plus tard, j'avais une réponse positive me disant que « Bah oui, vous voulez l'éditer. » La fête, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir pour la première fois son premier roman dans les mains, le premier jour? Quand les cartons arrivent,
Je me suis transformé toujours en vert, tout ça, mais content. J'ai attrapé le lustre, j'ai sauté, j'ai attrapé le lustre. Tout nu, j'ai couru sur mon balcon. C'était la fête. Non, c'est un grand bonheur. Pour moi, c'était vraiment génial.
Donc moi, le problème, c'est que je participais beaucoup trop à la correction. Donc quand je l'ai vu, j'étais déjà blasée, malheureusement. Mais c'est surtout le jour où j'ai reçu l'acceptation d'Isabelle. Je crois que j'ai posté un statut Facebook. Je suis jeune, évidemment, j'ai un compte Facebook. J'ai dû écrire « Yes !» sur mon compte Facebook. Et je pense que j'ai passé une nuit d'insomnie parce que j'étais surexcitée. Mais c'est vrai que quand j'ai eu le livre dans les mains, j'ai pas tout de suite réalisé, en fait. Je me dis, tiens, c'est joli, c'est pas mal, le papier est sympa, voilà. Mais après, c'est vrai que quand je le revois maintenant, je me dis, ah, quand même, c'est une fierté, voilà.
Pour Entrechaînes, il y a eu un parcours éditorial un peu particulier, puisqu'il a failli être édité une fois, et puis oui, et ça s'est enfin fait. Donc, ma première réaction, ça a été du soulagement. Je me suis dit, ça y est, après 2 ans de combat acharné, il est publié. En fait, vraiment, c'était pareil que vous deux, c'était la surexcitation. Quoi. Après, j'en ai pas dormi pendant des nuits. Je me suis dit, bon, il est publié, c'est dingue. Après, pour les suivants, on relativise un peu plus, mais la joie est toujours là, en fait. Ça se manifeste différemment, on va dire.
Combien de temps vous avez mis entre le début du manuscrit et la publication finale? Donc toi, tu l'as proposé en 2005, il est paru en 2011.
Oui, il a fallu juste 10 ans.
10 ans? Oui. La rue Farfadet à 10 ans, quoi.
La rue Farfadet à 10 ans, ouais. Entre le moment où j'ai commencé à écrire, où ça a été très très long, le moment où j'ai proposé une première fois, il a été refusé, et le moment où j'ai reproposé, 10 ans.
C'est un jeune vieux, quoi.
C'est ça.
Moi, j'ai commencé à l'écrire, je pense, en mars 2009, quelque chose comme ça. et il est sorti en février 2012. Donc c'est raisonnable pour moi.
Pour Entrechats, entre le moment où j'ai posé la première lettre de la première phrase, où j'avais 17 ans, quand il est paru, j'avais 22 ans. Donc ça fait 5 ans, il a été écrit incalculable deux fois. Et voilà. Mais après, ça dépend vraiment des auteurs, quoi, du moment. Parce que c'est très bien écrire un premier roman et avoir un nombre incalculable de nouvelles avant écrites, on a un savoir-faire qui change la donne, en fait.
Et dans ces 10 ans, dans ces 5 ans, il n'y a jamais eu un moment de découragement où on dit « tant pis, ce manuscrit-là, je vais le mettre dans un tiroir, je vais l'oublier, je vais l'enterrer ».
Quand les éditions de l'Olivier Céleste ont failli le publier, mais seulement failli, sincèrement, après, c'était le bouffe, quoi. Enfin, pas dans le sens où j'étais déprimée, enfin, un petit peu, mais c'était surtout « j'en ai marre, je l'ai réécrit 7 ou 8 fois, je n'en peux plus, qu'est-ce que je vais faire si je vais dans une nouvelle correction éditoriale ?» Surtout que je savais pas vraiment s'il allait trouver preneur à nouveau. Et puis au final, je me suis dit non, je l'ai réécrit cette fois, c'est pas pour mettre dans un tiroir. Donc je reste heureux, quoi.
Raphaël, as-tu été découragé?
Non, jamais, parce qu'en fait, je savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. Donc en fait, j'écrivais surtout pour me faire plaisir, comme j'ai dit. Donc en fait, non, j'étais pas découragé, puisque c'était d'abord. J'étais mon premier public, c'était un bon public, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et donc non, je me disais, bah si ça plaît pas, je ferai autre chose, et puis j'essaierai encore autre chose. J'ai une histoire à raconter, donc je suis en train de la raconter, et puis quand j'aurai fini, je ferai autre chose. Non, j'écrirai quoi qu'il arrive, comme disait un célèbre écrivain. J'ai complètement oublié le nom, tellement il est célèbre.
Non, les découragements, disons que moi, comme j'écris 50 trucs en même temps, j'ai pas vraiment le temps de me décourager. Donc, ça va.
Et puis la question maintenant que le livre est sorti, ça fait quelques temps, est-ce que romancier, c'est-à-dire avoir son livre publié, ça correspond à vos attentes et à ce que vous imaginez?
Définissez attentes, en fait.
Par rapport à l'image que tu t'en faisais, est-ce que l'image de l'écrivain, le fait d'avoir un roman publié, puis plusieurs, est-ce que ça correspond à tes attentes?
D'accord, donc en fait, le quotidien, se sentir auteur, entre guillemets, bref. Oui et non, parce qu'au final, ça change pas d'avoir la publication. En fait, toujours la même, enfin, personnellement, je fais toujours la même chose, je me pose devant mon ordi, j'y réfléchis très régulièrement. Mon quotidien n'a pas changé. Mais après, c'est comme dans les salons ici, etc. Ça m'a surpris parce que justement, moi, je ne me considérais pas comme auteur après ce premier roman. Pour moi, j'avais publié un roman, je pouvais continuer à écrire, mais sans me dire « je vais en faire une carrière », quoi. Par contre, le regard des gens change. Dans leurs yeux, ils ne demandent plus « hey, t'écris la fantasy, Legolas, il va bien ». Maintenant, c'est « alors, ton roman, tu sors quand le prochain », etc. Et par rapport à ça, ça a complètement dépassé mes attentes parce que, à côté, par rapport à mes proches, des fois, me prenaient un peu à la rigolade en me disant « voilà, la blague de Legolas, elle est véritable ». Et en fait, du coup, par rapport à ça, c'est complètement différent. Après, mon quotidien à moi, en tant qu'auteur qui écrit, etc., ça n'a pas changé, quoi. C'est la même langue, entre guillemets, le même quotidien.
Bon, bah, moi, j'ai une question à poser aussi, les photographes, tout ça, la presse. J'ai pas encore passé dans le monde des livres, je suis un peu déçue. Non, je plaisante. Mais bon, une chose a changé dans mon quotidien, j'ai plus un seul week-end de libre, je suis toujours sur des salons. Ou alors j'écris, mais effectivement, le changement concret dans le quotidien, c'est des salons.
J'ai rien de plus à ajouter, c'est pareil en fait. C'est plutôt rigolo, c'est le regard d'autrui effectivement qui change. Tu es auteur. Moi j'ai espéré un temps que ça me donnerait plus de conquêtes féminines, et ben même pas.
Voilà, comme ça on a un appel. Il y a une fille qui veut se dévouer, ça va nous sauver le week-end.
Merci, c'est sympa.
Non mais on peut faire tourner la neige. Donc ça fait 06 23 48 12 84. Dernière question, sur quoi est-ce que vous planchez maintenant? Quels sont les suivants à venir?
Moi, en ce moment, je me penche sur les tomes d'une série, bon, pas le premier tome qui a déjà été écrit et publié chez Voyelle aussi, qui s'appelle Quadruple assassinat dans la rue de la mort, qui est une reprise de la fameuse nouvelle de Garpo, version science-fiction vampirique avec des loups-garous, etc. Très très glauque, très différent de mon premier roman, vraiment complètement à l'opposé au niveau des ambiances. En plus, mon premier roman était un one-shot, là c'est une série. Et donc je travaille à la suite. Le tome 2 est écrit et corrigé, envoyé. Le tome 3 a été écrit, pas encore corrigé. Le tome 4 en construction. Et il en aura 6, voilà. Et sans ça, un genre de western spaghetti d'espace, sauce Firefly avec des aliens et compagnie. et une ambiance vraiment déjantée, qui s'appelle Foulard Rouge, en fait, et qui est une trilogie, voilà. Qui est... Mais pour l'instant, pas d'avenir éditorial, tout pour moi, et on verra plus tard.
Moi, j'ai beaucoup de nouvelles en cours d'écriture. Donc j'ai une nouvelle déjà qui paraît dans l'anthologie des Nascripteurs, en attendant l'Apocalypse, en coédition avec Nostradamus, l'édition Nostradamus. Et non, pas Nostradamus le prophète. On n'a pas réussi à l'avoir. Il manque trop d'avaloir. C'est voilà, c'est terrible. Je pense qu'il préfère publier justement chez Gallimard. Donc j'ai des nouvelles un peu partout et j'ai aussi plusieurs projets en cours, donc l'un serait un roman d'amour noir, un concept. Et éventuellement, après l'ouvrage sur Poséidon, quelque chose sur un autre dieu grec. On pense à Dionysus, mais c'est en cours d'écriture.
Moi, j'ai participé à un ou deux concours de nouvelles. Je suis en train de finir mon tome 3. On a un projet collectif là, qui, avec Nemos et trois autres auteurs et un illustrateur qui va venir en mars. Sur une année fictive dans la vie de Jules Verne. Et puis encore un autre projet, j'espère, sur un univers que j'adore, Glorantha, l'univers créé par Greg Safford. Mais on verra pour l'instant.
Et bien ça fait pas mal, tout ça vous pouvez les retrouver tout de suite en dédicace. Merci à tous. Merci.